الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد هذا اليوم هو آخر أيام شهر شعبان وهو اليوم 30 من عام 1440 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في المجلس الثاني في قراءة الرسالة التبوكية للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. Nous sommes le 5 mai 2019 et l'on se réunit pour la deuxième assise de l'étude de la lettre de Tabouk écrite par l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah sur le chemin du retour de son pèlerinage dans la région de Tabouk, dans la péninsule arabique, où il a écrit cette lettre qu'il a adressée et dirigée à des frères en Allah subhanahu wa ta'ala se trouvant dans la région du Sham. Cet écrit contenant de précieux conseils tout aussi bénéfiques les uns que les autres. Et nous voici dans la deuxième assise. Dans la première, nous avions pu voir que l'auteur, rahimahullah, a parlé de la définition du terme arabe al-bir, la bonté pieuse, et que c'est un terme qui englobe tout ce qu'il y a de bon, d'où c'est dérivé dans la langue arabe où l'on retrouve la même notion comme al-bur pour le blé, car c'est une graine contenant un énorme bien, ou al-bar pour celui qui est vertueux, obéissant envers ses parents, en raison de tout le bien qu'il a. La description des anges qui a été faite, al-barara, car ils ont le bien. Ainsi, al-bir est un mot général englobant en lui tout ce qu'il y a de bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné dans le Coran de s'entraider dans ce que l'on appelle al-bir et aussi al-taqwa. Et maintenant l'auteur rahimahullah va nous définir la réalité de la taqwa. Mais avant cela, rappelons-nous que la bonté pieuse al-bir est basée sur la croyance saine et authentique. Il n'y aura donc aucunement de bir, de bonté pieuse, sans que la personne n'ait au préalable la croyance saine, la croyance du tawhid, la croyance de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il en découle alors des actions apparentes telles que la prière, l'acquittement de l'aumône, les dépenses et autres, tout comme il en découle des actions du cœur telles que l'endurance dans les épreuves et difficultés et bien d'autres choses encore. L'auteur rahimahullah dit ensuite: wa amma at-taqwa fa haqiqatuha al-'amal bi ta'ati Allah imanan wa ihtisaba amran wa nahya fiyaf'alu ma amara Allah bihi imanan bil amri wa tasdiqan bi maw'idihi aw bi maw'udihi wa yatruku ma nahaa Allah 'anhu imanan bin nahyi wa khawfan min wa'idihi kama qala Talq ibn Habib إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى قالوا وما التقوى قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. L'auteur rahimahullah nous dit quant à la taqwa, ce terme, cette chose pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de s'entraider, tout comme il nous a ordonné de s'entraider dans Al-Bir, la réalité de ce que l'on appelle Al-Taqwa, que l'on ne traduit qu'approximativement par la piété, c'est l'application de l'obéissance d'Allah avec foi et espoir en la récompense. Mettre en œuvre les obligations et délaisser toutes les interdictions. Ainsi, le serviteur met en œuvre les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala avec foi, qu'Allah est celui qui les a légiférés, et en croyant que la promesse d'Allah est vraie, subhanahu wa ta'ala, il délaisse ce qu'Allah a interdit, avec foi que c'est Allah qui l'a interdit, et par crainte de sa menace. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit que cela est la réalité de at-taqwa. Au préalable, le terme taqwa a un sens linguistique, avant même de parler du sens voulu pour lequel il a été utilisé lorsque l'on en parle dans la religion. Le terme taqwa vient d'un verbe arabe, waqa yaqi, qui signifie se prémunir ou protéger. Ainsi, à titre d'exemple, l'on dit de la personne qui veut se protéger du froid à cause duquel elle porte de lourds vêtements ou un manteau, on dit qad labisa libasan thaqilan liyaqiyahu al-bard ash-shadid. Il vient de porter un vêtement lourd afin de le protéger de la fraîcheur intense. Tout ce qui va servir de protection et qui va aider à se prémunir contre quelque chose que l'on redoute fait partie du sens du mot taqwa. Ainsi, lorsque l'on parle de taqwa, on parle bien de se prémunir de quelque chose que l'on redoute, dans le sens linguistique. Quand on en parle religieusement, les définitions vont arriver. Mais l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit que la réalité de la taqwa, c'est de mettre en œuvre l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceci avec foi et espoir en la récompense. Ces deux termes, imanan wa ihtisaban. Imanan avec foi, avec conviction et certitude que cette action a été prescrite par Allah. Et c'est pour cela que toi, le serviteur, tu la mets en œuvre. Wa ihtisaban, espoir et attente de la récompense d'Allah. Tahtasibu ala Allahi azza wa jalla al-ajra. Tu espères d'Allah et attends de lui avec espoir et désir qu'il t'en donne la récompense. Subhanahu wa ta'ala, car tu sais qu'il a ordonné cette action que tu mets en œuvre et qu'il t'a promis en retour une récompense si tu l'appliques. Et la taqwa, c'est d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala en ayant la conviction que cette obéissance que tu mets en œuvre a été prescrite et légiférée par Allah, elle t'est demandée par lui, subhanahu wa ta'ala, pour attendre au final, et pour atteindre au final aussi, attendre et atteindre la récompense d'Allah en laquelle tu as cru, de façon sûre. C'est la réalité de la taqwa, c'est-à-dire que la personne se prémunit de la colère d'Allah, du châtiment d'Allah, Azzawajal, de la perdition, de l'entrée au feu, en obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Car le sens linguistique a un lien avec le sens religieux. Nous disions que le sens linguistique du terme taqwa signifie se prémunir, n'est-ce pas? Lorsqu'il est utilisé dans la religion, il s'agit de se prémunir du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. La personne qui se prémunit du froid porte un vêtement lourd pour lui tenir chaud. La personne qui se prémunit du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala met en œuvre son obéissance. Subhanahu wa ta'ala, voici la réalité de la taqwa. Elle met en œuvre les actions obligatoires et prescrites et elle délaisse ce qui est interdit par Allah. Tabaraka wa ta'ala. Elle fait cela avec foi et conviction qu'Allah l'a prescrit, et en attendant ce qu'il a promis en retour, Azza wa Jal. La personne délaisse les interdits, avec foi qu'Allah les a interdits, et par crainte de se voir touchée par la menace d'Allah, si elle succombe à cette tentation, l'appelant au mal. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit, comme a dit Talq ibn Habib, le dénommé Talq ibn Habib est un tabi'i. Il fait partie de la deuxième génération des pieux prédécesseurs. Il a rencontré des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, desquels il a pris les enseignements. Et il faisait partie des grands savants de l'islam, parmi les salaf, les pieux prédécesseurs. Un jour, quelqu'un lui demanda, lorsque la fitna arrive, quand les troubles arriveront, comment devrons-nous agir? Comment se protéger des troubles? Comment ne pas y tomber? Il répondit, « إِذَا وَقَعَتِ الْفِتْنَةِ فَادْفَعُوهَا بِالتَّقْوَى » Quand les troubles arriveront, repoussez-les par la taqwa. Repoussez ces troubles. Les troubles peuvent atteindre les gens. Les troubles peuvent toucher les gens. Les troubles peuvent faire périr les gens, égarer les gens, sortir de l'islam les gens, faire couler le sang des gens, emmener les gens à l'injustice et à tout ce qui déplaît à Allah. Comment repousser ces troubles? Fadfa'uha bittaqwa. Repoussez-les par la taqwa. Qalu wa ma taqwa? Ils dirent, en quoi est-ce que consiste la taqwa? Qu'est-ce que la taqwa par laquelle on doit repousser les troubles? Il répondit, an ta'mala bi ta'ati Allah 'ala nourin min Allah tarju thawab Allah. Que tu œuvres dans l'obéissance d'Allah avec une lumière émanant d'Allah tout en espérant la récompense d'Allah. Wa an tatruka ma'siyat Allah, et que tu délaisses la désobéissance à Allah, 'ala nourin min Allah, avec une lumière émanant d'Allah, takhafu 'iqab Allah, en craignant le châtiment et la punition d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Cette définition de la taqwa, nous dit le Cheikh Abdul Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr, jazahallahu khayran, cette définition est remplie de compréhension de la religion. Elle est remplie de science, car elle contient tout le bien. L'imam al-Zahabi, rahimahullahu ta'ala, a mentionné cette définition donnée par le Tabi'i Talq ibn Habib dans un de ses ouvrages, et il a ajouté les paroles suivantes. Il dit, « Abda'a wa awjaz, fala taqwa illa bi'amal, wa la amala illa bitarawin min al-ilmi wal-ittiba'a, wa la yanfa'u thalika illa bil-ikhlas, la liyuqal fulanun tarikun lil-ma'asi binur al-fiqh, إذ المعاصي يفتقر اجتنابها إلى معرفتها ويكون ترك خوفا من الله لا ليمدح بتركها فمن داوم على هذه الوصية فقد فاز. Il fait donc les louanges ou les éloges de cette définition donnée par le tabi'i Talq ibn Habib de la taqwa en disant, il a certes donner une définition sans pareil, tout en étant concis dans les paroles. Les mots ne sont pas nombreux, mais le sens est très lourd de science. Car en effet, nous dit l'imam al-Dhahabi, rahimahullah, c'est un des élèves de l'imam ibn Taymiyyah, rahimahullah, il n'y a de taqwa qu'avec les actions. Et il n'y a d'action que si l'on s'abreuve de science et de suivi. L'on ne peut faire des actions que si, au préalable, on a la science. Sinon, les gens vont se tromper. Ils ne vont pas suivre le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les actions ne vont qu'avec la science et le suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela n'est profitable à l'individu que s'il est sincère pour Allah azza wa jal. Il n'œuvre pas pour que l'on dise de lui, regarde, il a délaissé les péchés, car il a la compréhension de la religion d'Allah. Il dit aussi, et son délaissement des péchés ne l'est que par crainte d'Allah, non pas pour qu'on dise de lui qu'il a délaissé ses péchés. Ainsi, nous dit l'imam al-Dhahabi, quiconque suit constamment cette route, cette définition de la piété, aura récolté le succès, il aura réussi. Voyons maintenant les paroles de Talq ibn Habib. Lorsqu'il définit la taqwa, il dit, que tu œuvres dans l'obéissance d'Allah avec une lumière émanant d'Allah. Une lumière émanant d'Allah. De quoi est-ce qu'il s'agit quand il parle de la lumière? De la science. Car la science est une lumière. Vous savez que la foi est une lumière. El iman nur, vous le savez tous. Mais cette lumière est basée tout d'abord sur la science. Il n'y a de foi qu'avec la science. Pour cela, lorsque tu vois dans les versets que l'on parle de la foi, sache que l'on parle aussi de la science. Car il n'y a pas de science sans foi. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Illa alladhina amanu wa amilu salihat » Il dit que tous les gens sont dans la perdition à l'exception de ceux qui ont eu la foi et ont fait de bonnes actions. La foi implique la science. Car l'on ne peut avoir la foi qu'en connaissant ce à quoi on doit adhérer en termes de foi. Ce à quoi l'on doit croire. Ce que l'on doit suivre comme connaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, de ses noms, de ses attributs, de ce qu'il adviendra des gens le jour dernier, des anges, des livres, et de tous les piliers de la foi, et tout ce qui en découle comme chose qui relève notamment de l'invisible. Cela demande du savoir. Il n'y a pas de foi sans connaissance. Il nous dit que tu œuvres dans l'obéissance d'Allah, avec une lumière émanant d'Allah, en espérant la récompense d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et que tu délaisses la désobéissance d'Allah avec une lumière émanant d'Allah, même le délaissement des péchés doit être fait avec connaissance. Tu ne délaisses pas quelque chose par ignorance, tu délaisses par connaissance. Combien de gens ont délaissé la sunna par ignorance, ont délaissé des actes obligatoires par ignorance, en pensant se rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est une erreur. Takhafu 'iqab Allah. Tout ceci en craignant le châtiment d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal a employé le terme nour, lumière, en disant à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Et ainsi, nous t'avons révélé une âme émanant de nous. Le Coran. Car le Coran fait vivre les cœurs. رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانِ. Tu ne connaissais pas ce qu'était le livre ni la foi. وَلَاكِنْ مَا جَعَلْنَاهُ نُورًا. Nous en avons fait une lumière. نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. Par laquelle nous guidons qui nous voulons de nos serviteurs. Et dans l'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. Est-ce que celui qui était mort et à qui nous avons redonné la vie et une lumière par laquelle il circule au milieu des gens, العلم والإيمان, est semblable à celui qui est dans les ténèbres desquelles il ne pourra jamais sortir? La réponse est évidemment que non. Ainsi, lorsque tu œuvres avec une lumière émanant d'Allah, subhanahu wa ta'ala. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit, وَهَذِهِ مِنْ أَحْسَنِ مَا قِيلَ فِي حَدِّ التَّقْوَى. Cette définition est une des meilleures paroles dites pour définir la taqwa, c'est-à-dire celle de Talq ibn Habib, œuvrer dans l'obéissance avec une lumière émanant d'Allah jusqu'à la fin. فَإِنَّ كُلَّ عَمَلٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مَبْدَئٍ وَغَايَةٍ. Ceci car toute action, toute œuvre doit inévitablement avoir un point de départ et un but recherché. Un point de départ et un but recherché, ce qui va être détaillé. فَلَا يَكُونُ الْعَمَلُ طَاعَةً وَقُرْبَةً حَتَّى يَكُونَ مَصْدَرُهُ عَنِ الْإِيمَانِ. Ainsi, une action ne peut être considérée comme une obéissance rapprochant d'Allah que si sa source, c'est-à-dire son point de départ dont il vient de parler, est la foi. À la base, c'est la foi qui est le point de départ des actions. C'est pour cela dans le Coran, tu trouves « Illa alladhina amanu wa amilu salihat » sauf ceux qui ont eu la foi et qui ont fait de bonnes actions. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Certes, ceux qui ont eu la foi et qui ont fait les bonnes actions. Les bonnes actions ont pour point de départ, ont pour moteur, poussant à agir, l'Iman.
فَيَكُونُ الْبَاعِثُ عَلَيْهِ هُوَ الْإِيمَانَ الْمَحْضُ.
Ce qui pousse ainsi à œuvrer dans les bonnes actions, c'est la foi.
لَا الْعَادَ وَلَا الْهَوَى وَلَا طَلَبَ الْمَحْمَدَ وَالْجَهْ وَغَيْرِ ذَلِكَ.
Ce n'est pas la coutume, ni la passion, ni l'envie d'être loué par autrui, ou d'atteindre un rang chez les autres. Ce n'est pas cela qui doit pousser la personne à agir. Prenons l'exemple du jeûne du mois de Ramadan qui va arriver demain, inshallah, tabaraka wa ta'ala. Beaucoup, malheureusement, vont jeûner par coutume. Ils vont jeûner car tout le monde jeûne dans le village, dans l'endroit où ils vivent, au sein de la famille et du foyer. Certains vont jeûner pour faire un régime, pour la santé. D'autres vont jeûner pour que l'on dise d'eux qu'il est patient celui-là. Il a enduré les contraintes de la faim et la soif pendant toutes ces longues journées, etc., etc. Cette action ne fait pas partie de la taqwa. Un tel jeûne ne fait pas partie de la taqwa, car la taqwa, c'est d'œuvrer avec une action qui a pour point de départ la foi en Allah subhanahu wa ta'ala.
بل لا بد أن يكون مبدأه محض الإيمان.
Il faut absolument que le point de départ de la bonne action soit la foi pure.
وغايته ثواب الله تعالى.
Et que le but recherché soit la récompense d'Allah Azza wa Jal.
وابتغاء مرضاته.
Et la recherche de sa satisfaction, l'auteur nous dit, وهو الاحتساب. Et c'est ce que l'on appelle al-ihtisab. Et très souvent, l'on voit ces deux termes, al-iman et al-ihtisab, la foi et l'espoir en la récompense, réunis dans des textes. Vous allez l'entendre, incha'Allah. La foi et l'espoir en la récompense. La foi est le point de départ de l'action. Et la récompense est la destination recherchée.
L'auteur, rahimahullah, dit ولهذا كثيرا ما يقرن بين هذين الأصلين في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا
يعني غفر له ما تقدم من ذنبه
ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا
يعني غفر له ما تقدم من ذنبه
ونظائره لمبل القيم رحمه الله نجي.
Pour cela, nous trouvons un grand nombre de textes où sont regroupés ces deux fondements. Quels sont ces deux fondements? Le point de départ et le but recherché. La foi et l'espoir en la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, quiconque jeûne le mois de Ramadan, que nous dit-il? Imanan wa ihtisaba, avec foi et espoir en la récompense. Ses péchés passés lui seront pardonnés.
Wa man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaba,
et quiconque prie la nuit du destin avec foi et espoir en la récompense. La fin du hadith, ses péchés passés lui seront pardonnés. Qu'est-ce que l'on voit ici? On remarque que ces deux fondements que sont le point de départ des bonnes actions et le but recherché par celles-ci, c'est la foi et l'attente de la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala.
فَقَوْلُهُ عَلَى نُورٍ مِّنَ اللَّهِ إِشَارَةٌ إِلَى هَذَا الْأَصْلِ وَهُوَ الْإِيمَانِ الَّذِي هُوَ مَصْدَرُ الْعَمَلِ وَالسَّبَبُ الْبَاعِثُ عَلَيْهِ.
Quand Talq ibn Habib, rahimahullah, a dit d'œuvrer dans l'obéissance d'Allah avec une lumière émanant d'Allah, c'est une allusion de sa part à cette première base qui est la foi. Car la foi, comme nous l'avions déjà dit, est le point de départ des bonnes actions et la cause nous poussant à agir. Pourquoi est-ce que vous êtes venu ici? Inch'Allah Ta'ala. C'est la foi qui vous pousse à venir entretenir vos cœurs, soigner vos cœurs, apprendre, écouter la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Wa qawluhu tarju thawab Allah, isharatun ila al-asl al-thani.
Quant à sa parole, c'est-à-dire celle de Talq rahimahullah dans la définition de la taqwa, en espérant la récompense d'Allah, c'est une allusion au deuxième fondement qui est wa huwa al-ihtisab, l'espoir en la récompense.
Wa huwa al-ghayatu allati li ajliha yuqa'u al-'amal wa laha yuqsad bih.
Et c'est le but pour lequel l'action est accomplie. Donc chaque action doit avoir son point de départ et son but recherché. Le point de départ, c'est la foi en Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le but recherché, c'est la satisfaction d'Allah, son agrément et ses récompenses aussi, subhanahu wa ta'ala. L'auteur nous dit,
وَلَا رَيْبَ أَنَّ هَذَا جَامِعٌ لِجَمِيعِ أُصُولِ الْإِيمَانِ وَفُرُوعِهِ وَأَنَّ الْبِرَّ دَاخِلٌ فِي هَذَا الْمُسَمَّى.
Et nul doute que ce principe qui vient d'être détaillé réunit en lui tous les piliers, tous les fondements de la foi et ses branches. Et dans ce sens-là, nous pouvons dire que le terme bir, dont il a déjà parlé avant, entre dans cette appellation également. Souvenez-vous, nous avions dit que les deux termes que sont al-bir et al-taqwa sont des mots qui se réunissent dans le sens quand ils se séparent dans les textes. Et ils se séparent dans le sens quand ils se réunissent dans les textes. Cela va être plus détaillé, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Mais de manière générale, nous pouvons dire que dans le sens du mot al-bir, puisque al-bir a été défini comme étant tout le bien, le mot taqwa entre dedans. Tout comme nous pouvons dire que dans le sens du mot taqwa, qui est le fait d'œuvrer dans l'obéissance d'Allah avec science, le mot bir entre dedans. L'un veut dire l'autre, en d'autres termes. Cependant, l'auteur nous dit,
وَأَمَّا عِنْدَ اِقْتِرَانِ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى فَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ بَيْنَ السَّبَبِ الْمَقْصُودِ لِغَيْرِهِ وَالْغَايَةِ الْمَقْصُودَةِ لِنَفْسِهَا فَإِنَّ الْبِرَّ مَطْلُوبٌ لِذَاتِهِ إِذْ هُوَ كَمَالُ الْعَبْدِ وَصَلَاحُهُ الَّذِي لَا صَلَاحَ لَهُ بِدُونِهِ كَمَا تَقَدَّمْ.
Alors que quand ces deux mots sont joints dans les textes, comme dans le verset traité, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, et entraidez-vous dans al-bir et al-taqwa, la bonté pieuse, et taqwa, la piété, ce ne sont que des traductions rapprochées, bien sûr. La différence à ce moment-là entre ces deux termes, car ici ils sont joints dans le texte, et nous disions que lorsqu'ils sont joints, ils se séparent dans le sens voulu. Chacun prend un sens. Alors que s'ils sont séparés dans les textes, chacun prend les deux sens. Le sens de l'un tout comme le sens de l'autre. Dans le verset, ils sont joints. Ils se sépareront donc dans le sens voulu par chacun des deux. Ainsi, quand c'est le cas et qu'ils sont joints, il y a une différence entre la cause de l'action et le but recherché. La cause de l'action et le but recherché. Quant au terme al-bir, al-bir alors prendra le sens de ce qui est voulu en soi. Ce sont les bonnes actions. Car al-bir constitue la droiture du serviteur et sa réussite. Sans al-bir, sans la bonté pieuse, le serviteur ne peut réussir.
Wa amma taqwa فَهِيَ الطَّرِيقُ الْمُوصِلَةُ إِلَى الْبِرِّ.
Et quand ils sont joints, le mot « taqwa » voudra alors dire « la voie y menant ». La voie menant ou la voie permettant d'atteindre « al-bir ».
وَالْوَسِيلَةُ إِلَيْهِ.
Et le moyen aussi y menant.
وَلَفْظُهَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا.
Et en revenant au sens linguistique, La base du terme taqwa indique ce sens, le sens de ce qui mène à.
Il dit فإنها فعل من وقع يقي وكان أصلها وقوى فقال فقلبوا الواو تاء كما قال تراث من الوراثة وتجاه من الوجه وتخمة من الوخم ونظائرة فلفظها دال على أنها من الوقاية.
Le terme taqwa indique la prémunition, de se prémunir, de se protéger, quelque chose pour éviter ce que l'on redoute.
فَإِنَّ الْمُتَّقِي, celui qui est appelé al-muttaqi, que l'on traduit souvent par le pieux, celui qui est appelé al-muttaqi, قَدْ جَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ وَقَايَ,
est celui qui a mis entre lui et le feu de l'enfer une prémunition, une protection.
وَالْوِقَايَةُ مِنْ بَابِ دَفْعِ الضَّرَرِ,
et la prémunition est ce qui sert à repousser la nuisance.
وَالْبِرُّ مِنْ بَابِ تَحْصِيلِ النَّفْعِ,
et al-bir est ce qui sert à attirer les utilités. On cherche donc à nous attirer les utilités et nous écarter des nuisances. Ainsi, quand il y a le mot taqwa al-bir réuni dans le texte, l'auteur nous dit fa taqwa kal-himya. La taqwa ressemble au régime. Vous savez, le régime que la personne suit dans le but de se protéger de la maladie. La personne se dit tel aliment est nocif, tel autre est nuisible, tel autre est périmé, dangereux pour la santé. Je vais donc faire un régime et surveiller tout ce que je bois et mange. Par peur d'être touché de telle et telle maladie, on appelle cela un régime. La taqwa avec al-bir est à l'image du régime.
Wal-birru kal-afiyati was-sihha.
Et al-bir est à l'image de la bonne santé. Donc quand Allah Azza wa Jalla nous ordonne de nous entraider dans ces deux choses que sont al-birru wa taqwa, al-bir c'est la bonté, les bonnes actions, et al-taqwa c'est le fait d'éviter tout ce qui pourrait souiller nos bonnes actions, comme péché et comme désobéissance. Ainsi, celui qui fait des bonnes actions ne peut pas se contenter de cela. Il doit aussi se prémunir de tout ce qui viendrait entacher ses bonnes actions, ou tout ce qui pourrait l'empêcher de faire des bonnes actions. Et toutes ces choses-là sont les péchés. En ce sens-là, la taqwa ressemble au régime, c'est une cause pour atteindre un but. La taqwa est voulue pour autre que ça. Le régime, lorsque l'on fait le régime, ce n'est pas pour le régime en lui-même, mais c'est pour obtenir un résultat. De même pour la taqwa. On cherche à obtenir un résultat. Quel est ce résultat? Al-bir. Quel est le résultat du régime? La bonne santé. Voilà ce que nous dit l'imam Ibn Qayyim, rahimahullah. Et je vous laisse admirer la science profonde de cet homme. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Il nous dit ensuite,
وَهَذَا بَابٌ شَرِيفٌ يُنْتَفَعُ بِهِ انْتِفَاعًا عَظِيمًا فِي فَهْمِ أَلْفَاظِ الْقُرْآنِ وَدِلَالَتِهِ وَمَعْرِفَةِ حُدُودِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ فَإِنَّهُ هُوَ الْعِلْمُ النَّافِعُ وَقَدْ ذَمَّ سُبْحَانَهُ فِي كِتَابِهِ مَنْ لَيْسَ لَهُ عِلْمٌ بِحُدُودِ مَا أَنْزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ فَإِنَّ عَدَمَ الْعِلْمِ بِذَلِكَ مُسْتَلْزِمٌ مَفْسَدَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ.
C'est une porte de la science très noble. Et l'on en tire un énorme profit dans la compréhension des termes du Coran et des sens voulus par ces derniers. Le fait de savoir la différence entre les termes dans leur sens, quand ils sont unis, quand ils sont séparés, chacun va prendre un sens que l'autre n'aura pas, mais dès qu'ils sont séparés, chacun prendra son sens plus celui de l'autre. Le fait de connaître cette porte noble de la science te permet et te donne une compréhension saine des termes employés dans le Coran et donc te protège de l'erreur. bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, et c'est ce dont on va parler par la suite, quelques erreurs de l'auteur Ibn Qayyim rahimahullah. Il nous dit, la connaissance des limites fixées par Allah, la connaissance des limites descendues par Allah sur son messager, sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça la science utile, nous dit l'auteur. De connaître les limites fixées par Allah, celles qu'il a légiférées à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le Cheikh Abdel Razak ibn Abdel Mohsen al-Badr, hafidhahum Allah, dit, les limites représentent deux choses. Les limites fixées par Allah, subhanahu wa ta'ala, représentent deux choses. La première, les obligations. La seconde, les interdits. On parle donc des ordres et des interdits d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Connaître ces choses-là, c'est ça la science utile. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans son livre, a blâmé quiconque n'a pas connaissance des limites qu'il a descendues à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ceci, car l'ignorance des limites fixées par Allah, des ordres donnés par Allah azza wa jal, fait découler deux très graves préjudices dont il va parler rahimahullah ta'ala en nous disant ihdahuma an yudkhala fi musamma al-lafz ma laysa minhu fayuhkam lahu bi hukm al-murad min al-lafz fayusawa bayna ma farraqa Allah baynahuma. La première erreur, lorsque l'on ne connaît pas les différences entre les termes et leur sens, et donc on ne connaît pas les limites descendues par Allah subhanahu wa ta'ala, la personne va faire comme erreur entrer des termes, elle va donner à des termes des définitions qui ne sont pas les leurs, de manière simple. La personne va donner à des termes des définitions qui ne sont pas les leurs. Et à cause de cette définition, elle va donner à des actions des jugements qui ne sont pas les leurs. Soit elle va dire que cette action est obligatoire, ou alors elle va dire que cette action est interdite. Elle donne un jugement à une action qui n'est pas la sienne, qui n'est pas le sien ou la sienne. Elle donne, la sienne, qui n'est pas la sienne, qui ne lui revient pas. Pourquoi? Parce que déjà dans cette action, dans le terme de cette action, la personne a fait erreur. Elle lui a donné une autre définition. Et ainsi, elle risque de mettre à égalité ce dans quoi Allah a fait une différence. Vous allez comprendre avec les exemples qui vont venir. La deuxième erreur. أن يخرج من مسماه بعض أفراده الداخلة تحته فيسلب عنه حكمه فيفرق بين ما جمع الله بينهما. La deuxième erreur, c'est juste le contraire. C'est-à-dire que l'on enlève de la définition d'un mot ce qui en réalité en fait partie. On lui enlèvera alors son véritable jugement. Et on fera la différence entre deux choses entre lesquelles Allah n'a pas fait de différence, subhanahu wa ta'ala. Vous allez le comprendre dans quelques lignes, de manière claire, avec son illustration, rahimahullah. Il nous dit, وَالذَّكِيُّ الْفَطِنُ يَتَفَطَّنُ لِأَفْرَادِ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ وَأَمْثِلَتِهَا فَيَرَى أَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْإِخْتِلَافِ أَوْ أَكْثَرَهِ إنما نشأ عن هذا الموضع وتفصيل هذا لا يفي به كتاب ضخم ومن هذا لفظ الخمر فإنه اسم شامل لكل مسكر فلا يجوز إخراج بعض المسكرات منه وينفى عنها حكمه. Le voici arrivé dans les exemples. Mais tout d'abord, il nous dit, l'individu intelligent et perspicace comprend rapidement cette règle et ce qui en découle. et sait que la plupart des divergences entre les gens ont pris naissance à cause de cette erreur-là, dans ce point-là, de ne pas définir les choses selon leur définition qui leur reviennent. Il nous dit que, pour détailler ce sujet, un très gros livre ne serait pas suffisant. Mais il va se contenter de quelques exemples. Il nous dit, prenons l'exemple du terme al-khamr. Al-khamr, que l'on a traduit par le vin. Déjà, la traduction al-khamr, lorsqu'on lui donne comme traduction le vin, c'est insuffisant. Car en réalité, al-khamr, c'est tout ce qui enivre. Tout ce qui recouvre la raison lorsque c'est consommé. Ça peut être une boisson, ça peut être ce qui n'est pas une boisson. Dès lors que ça recouvre la raison et amène la personne à l'enivrance, ou l'ivresse, pardon, cette chose est appelée khamr. Mais, il nous dit qu'il n'est pas permis, rahimahullah, de faire sortir de cette appellation, donc de ce terme, al-khamr, certaines boissons enivrantes ou certains produits enivrants. Et donc, en faisant sortir de ce terme, on ne lui donne plus le jugement. Je pense que là, vous allez comprendre ce qu'il disait. Certains disent, oui, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, « Innama al-khamru wal-maysiru wal-ansabu rijsun min amal al-shaytan fajtanibu. » Certes, les vins, les jeux de hasard et les autres, ala kulli hal, sont une abomination du diable, délaissez-les. Allah Azza wa Jal nous parle donc de délaisser al-khamr. Il va te dire, ce que je consomme n'entre pas dans la définition du mot khamr. Donc, il n'a pas son jugement. Vous comprenez? Il enlève une des parties de ce qui entre dans la définition pour au final lui enlever son jugement. Il nous dit, وَكَذَلِكَ لَفْضُ الْمَيْسِرِ tout comme le terme al-maysir. Ce qui représente les jeux de hasard, qui sont interdits. وَإِخْرَاجُ بَعْضِ أَنْوَاعِ الْقِمَارِ مِنْ certains qui font sortir de cette appellation des catégories de jeux de hasard. Par exemple, dans l'islam, à la base, l'assurance est interdite. Une des raisons pour lesquelles elle est interdite, c'est qu'elle contient la notion du jeu de hasard, dans le sens où la personne qui contracte un contrat d'assurance ne sait pas si elle va en ressortir gagnante ou non. De l'autre côté, la compagnie d'assurance ne sait pas si elle va en ressortir gagnante ou non. C'est le principe même du jeu de hasard. Si la personne n'a aucun accident, tout l'argent qu'elle a cotisé est perdu. Et la compagnie a gagné. Par contre, si elle a un accident, la compagnie a perdu parce qu'elle va lui rembourser peut-être plus que ce que la personne a cotisé. C'est le principe du jeu de hasard. Et c'est une des raisons pour lesquelles les savants disent qu'à la base, le jugement de ce contrat est l'interdiction. Il te dit, ça n'entre pas dans le jeu de hasard. Le jeu de hasard est connu, c'est telle chose. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Il fait sortir de la définition une de ses composantes. Et en la faisant sortir, il lui enlève alors son jugement. L'auteur nous dit, وَكَذَلِكَ لَفْضُ النِّكَاحِ وَإِدْخَالُ مَا لَيْسَ بِنِكَاحٍ fi musamma, le terme nikah, mariage, et le fait de faire entrer dans ce mot ce qui n'en fait pas partie. Wa kadhalika lafdhu riba, les intérêts. Wa ikhraju ba'd anwa'ihi min, et le fait de faire sortir du terme riba des formes qui en font partie. Ils te disent, cela ne fait pas partie du riba. Donc, si ça ne fait pas partie du riba, ça n'a pas le même jugement. وَإِدْخَالُ مَا لَيْسَ بِرِبًا فِيهِ d'autres font entrer dans le riba, dans l'intérêt, ce qui n'en est pas. وَكَذَلِكَ لَفْظُ الظُّلْمِ وَالْعَدْلِ وَالْمَعْرُوفِ وَالْمُنْكَرِ وَنَظَائِرُهُ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَى et d'autres termes encore. L'auteur, rahimahullah, nous dit وَالْمَقْصُودِ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ اجْتِمَاعِ النَّاسِ وَتَعَاشُرِهِمْ التَّعَاوُنُ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى فَيُعِينُ كُلُّ وَاحِدٍ صَاحِبَهُ عَلَى ذَلِكَ عِلْمًا وَعَمَلًا. Ce qui est à retenir, ou ce qui est voulu, est que ce que l'on doit rechercher à travers l'union entre les gens et la vie commune entre les gens, c'est l'entraide dans le bien et la piété. Ici, l'imam Al-Qayyim rahimahullah est dans son introduction. Tout ce que l'on a lu jusqu'alors n'est que l'introduction sur laquelle il va se baser pour bondir dans le reste de l'écrit bénéfique Risalatu Tabukiyya. Mais là, que nous dit-il? Que ce dont il a parlé au début, lorsqu'il dit qu'Allah Azza wa Jalla nous ordonne de s'entraider dans le bien et la piété et nous interdit de nous entraider dans le mal jusqu'à la fin du verset, il nous dit que ce qui doit être voulu lorsque les gens vivent ensemble, lorsque les gens se réunissent, ça doit être l'entraide dans le bien et dans la piété. Chacun doit aider son compagnon avec qui il marche avec science et dans les bonnes actions. Personne ne peut vivre complètement seul. Al-insan summiya insanan li'annahu yasta'nisu ba'dahu bi ba'd, comme قال ابن القيم رحمه الله. L'homme a été appelé insan, ins. Cela vient du terme al-uns, qui est la compagnie. Il a été appelé insan sur la base du terme uns, qui est la compagnie, car c'est une créature qui a besoin de compagnie. Ça, c'est le sens du terme ins, insan. Il a besoin de compagnie. Et l'humain s'entraide avec autrui. C'est inévitable. Soit il s'entraidera avec autrui dans le bien, soit il s'entraidera avec autrui dans le mal. L'imam, rahimahullah, nous dit ce qui doit être voulu dans la vie commune entre les gens et dans leur union, c'est l'entraide dans le bien et la piété, de telle sorte à ce que chacun aide l'autre avec science et dans les bonnes actions. فَإِنَّ الْعَبْدَ وَحْدَهُ لَا يَسْتَقِلُّ بِعِلْمِ ذَٰلِكَ وَلَا بِالْقُدْرَةِ عَلَيْهِ فَاقْتَضَتْ حِكْمَةُ الرَّبِّ سُبْحَانَهُ أَنْ جَعَلَ النَّوْعَ الْإِنْسَانِيَّ قَائِمًا بَعْضُهُ بِبَعْضٍ مُعِينًا بَعْضُهُ لِبَعْضٍ. Le serviteur ne peut pas rester seul avec sa science. Il ne peut pas rester seul. Il est obligé d'avoir des gens autour de lui. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse, a fait en sorte que le genre humain, l'homme, tienne en s'entraidant avec l'autre. Celui qui va au travail, que fait-il à part s'entraider du matin au soir avec l'autre? Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Celui qui prend les transports pour se rendre à tel endroit, que fait-il si ce n'est s'entraider avec l'autre lorsqu'il paye le service et l'autre l'aide en l'accompagnant d'un point A à un point B? Méditez sur toutes les actions de la vie, vous verrez qu'elles sont toujours des entraides entre l'un et l'autre. Chacun aide l'autre. Et donc, les gens vont s'entraider soit dans le bien, soit dans le mal. C'est donc aux croyants de choisir. Regardez le peuple de Quraysh qui s'est entraidé dans le shirk. Chacun conseillait à l'autre de patienter dans la voie du shirk et de la mécréance en Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils se sont entraidés. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit « Qulu la ilaha illallah tuflihu » Dites « La ilaha illallah » et vous récolterez le succès. Ils ont refusé et ils ont été jusqu'à se conseiller mutuellement. Animshu wasbiru ala alihatikum. Inna hadha la shay'un yurat. Continuez dans cette voie et soyez patients avec vos divinités. C'est voilà ici quelque chose qui est voulu. Regardez, ils s'entraident dans le batil. Ils s'entraident dans le mal. Ainsi, les gens s'entraident soit dans le bien, dans le tawhid, dans la sunna, dans l'iman, soit dans le mal, dans le shirk, dans le bid'a, dans le kufr, dans les ma'asi, la désobéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et l'homme a besoin. Moussa alayhi salam a demandé à Allah de lui assigner quelqu'un qui l'aiderait. Allah Azza wa Jal lui a donné son frère Haroun et lui a dit « قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ » Nous allons te renforcer par ton frère. Tu as besoin de ton frère pour te renforcer. Sinon, tu es faible. L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit ensuite « ثُمَّ قَالَ قَالَ تَعَالَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ » Et dans le sens du morceau de verset suivant, « Et ne vous entraidez pas dans les deux choses, al-ithm et al-udwan. » Qu'est-ce que al-ithm ? Qu'est-ce que al-udwan ? وَالْإِثْمُ وَالْعُدْوَانِ فِي جَانِبِ النَّهْيِ نَظِيرُ الْبِرِّ وَالتَّقْوَى فِي جَانِبِ الْأَمْرِ Ces deux choses qui sont appelées al-ithmu et al-udwanu sont à l'image, quand on parle d'interdiction, de ces deux autres termes qui sont al-bir et al-taqwa, quand on parle d'obligation. Quand on parle d'obligation, on a l'obligation de al-bir et al-taqwa. Quand on parle d'interdiction, on a l'interdiction de deux choses qui sont al-ithm et al-udwan. والفرق ما بين الإثم والعدوان فرق بين محرم الجنس ومحرم القدر فالإثم ما كان حراما لجنسه والعدوان ما حرم الزيادة في قدره وتعدي ما أباح الله منه سبحانه وتعالى La différence entre l'ithm, c'est ce que l'on traduit par le péché, et l'udwan, que l'on traduit par la transgression, la différence entre le péché et la transgression, c'est la différence entre ce qui est interdit en soi, quelque chose qui est interdit en soi, al-ithm, le péché. Boire de l'alcool, ithm, c'est un péché, c'est interdit en soi. Alors que al-udwan, c'est la transgression d'une limite fixée par Allah. C'est ça qu'on le traduit par la transgression. Nous sommes donc à la base dans quelque chose qui n'est pas interdit. Seulement, il y a des limites à ne pas franchir. Lorsque cette limite est franchie, comme l'exagération, à l'égard d'un pieux, nous devons aimer les gens pieux. Mais nous n'avons pas le droit de franchir la limite qui est celle de garder à l'esprit qu'il n'est qu'un serviteur d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dès que l'on franchit cette limite et que l'on commence à le vénérer, puis l'adorer, le solliciter, nous tombons dans la transgression. Wal'iyadu billah. Fazina wa shurbul khamr wa sariqa wa nahwuha ithmun. Ainsi, la fornication, la consommation de ce qui enivre, le vol et ses semblables sont des péchés, ithm. ونكاح الخامسة واستيفاء المجني عليه أكثر من حقه ونحوه عدوان. Et le fait d'épouser une cinquième épouse, c'est une transgression. Donc, à la base, il y a un droit que l'on a. Dès qu'il est dépassé, nous tombons dans la transgression. Alors que le péché, c'est ce qui est interdit en lui-même. Vous comprenez ? Épouser n'est pas interdit à la base, mais transgresser la limite devient interdit. Donc ce n'est pas la chose en soi, mais c'est le dépassement de la limite fixée dans cette chose qui est al-udwan. Wal-udwanu ma hurrima Je vais vous lire un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a été une image frappante donné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi et d'autres, et qui a été authentifié par l'imam al-Albani, rahimahum Allah, dans lequel le compagnon al-Nawas ibn Sam'an, radiyallahu anhu, nous dit « Daraba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mathalan, siratan mustaqima » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné en exemple une voie droite. Il s'adresse à ses compagnons et va leur donner une parabole, un exemple, une image.
une voie droite. وعلى جنبتي الصراط سور فيه أبواب مفتحة. Et dans les deux côtés de cette voie, qu'y a-t-il? Des grillages sur lesquels se trouvent des portes grandes ouvertes. وعلى الأبواب سطور مرخاة. Et de ces portes descendent des rideaux lâchés. De ces portes descendent des rideaux lâchés. وعلى باب الصراط. Et à la porte de cette voie, داعين, quelqu'un qui appelle. يدعو, il appelle et dit, يا أيها الناس, ادخلوا إليه جميعا, ولا تتعوجوا. Il dit, oh vous les gens, entrez-y tous ensemble et ne déviez pas. يا أيها الناس, ادخلوا إليه جميعا, ولا تتعوجوا. والداعي يدعو من فوق الصراط. Et l'appeleur appelle au-dessus de cette voie. فَإِذَا فُتِحَ بَابٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ. Et lorsque une de ces portes est ouverte, ces portes qui ont des rideaux lâchés, ce sont des portes, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Mais il y a quelqu'un pour mettre en garde. Vous êtes dans une voie droite. À droite et à gauche, il y a plusieurs portes sur lesquelles des rideaux sont lâchés. Vous marchez dans cette voie, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Quelqu'un vous dit, suivez ce chemin. Et un autre vous dit, n'entre pas, lorsque vous êtes tenté d'y entrer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsqu'une des portes est ouverte, قَالَ وَيْحَكْ لَا تَفْتَحْهُ إِن تَفْتَحْهُ تَلِجْهُ. Il dit, malheur, n'y entre pas. Malheur, ne l'ouvre pas. Car si tu l'ouvres, tu y entres. Il nous dit, وَالصِّرَاطُ الْإِسْلَامِ. Et la voie droite, c'est l'islam. وَالصُّطُورُ حُدُودُ اللَّهِ. Et les rideaux sont les limites fixées par Allah. وَالْأَبْوَابُ الْمُفَتَّحَةِ مَحَارِمُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Et les portes grandes ouvertes sont les interdits d'Allah, exalté soit-il. Donc, il t'explique que tu es dans la voie de l'islam. Quelqu'un t'appelle. Suis cette voie. Mais dans cette voie, à droite et à gauche, il y a des portes qui t'attirent. Tu ne sais pas ce qu'il y a derrière, car il y a un rideau lâché. Mais il y a toujours quelqu'un pour te dire, malheur à toi. N'ouvre pas cette porte, car si tu l'ouvres, tu vas y entrer. Donc si tu y entres, tu es perdu. Et dans l'autre version, le prophète ﷺ nous dit que celui qui dit n'y entre pas, wa'idullahu fi qalbi kulli muslim. C'est l'exhortant d'Allah dans le cœur de chaque croyant. Chaque croyant, au moment du péché, quelque chose lui dit, tu ne devrais pas le faire. Tu ne devrais pas le faire. Et ça, c'est une grande miséricorde d'Allah. Azza wa Jalla, d'avoir mis dans nos cœurs au moment de la tentation, surtout dans les situations où personne ne nous voit, quelque chose qui nous dit, crains Allah, ne le fais pas. Et combien ont délaissé le péché qu'ils ont failli commettre et qui a failli causer leur perte par la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla, avec ce sentiment qu'ils ont eu dans le cœur. Au moment de le faire, crains Allah, ne le fais pas. Ils se sont alors arrêtés grâce à Allah subhanahu wa ta'ala walhamdulillah. Ainsi, Allah azza wa jal a fixé des limites qui ne doivent pas être transgressées. L'auteur rahimahullah ta'ala nous dit فَالْعُدْوَانُ هُوَ تَعَدِّي حُدُودِ اللَّهِ الَّتِي قَالَ فِيهَا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. La transgression, al-udwan, consiste à outrepasser les limites fixées par Allah, au sujet desquelles il nous dit dans le sens rapproché du verset, voici les limites fixées d'Allah, ne les franchissez pas, et quiconque franchit les limites fixées par Allah, ceux-là sont les injustes. وقال في موضع آخر, dans un autre passage, il nous dit, Tilka hududullahi fala taqrabuha. Voici les limites fixées par Allah, ne les approchez pas. Donc, on nous dit de ne pas les transgresser, et dans d'autres versets, on nous dit de ne pas s'en approcher.
فَنَهَا عَنْ تَعَدِّيهَا فِي آيَةٍ وَعَنْ قُرْبَانِهَا فِي آيَةٍ وَهَذَا لِأَنَّ حُدُودَهُ سُبْحَانَهُ هِيَ النِّهَايَاتُ الْفَاصِلَةِ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ.
Il nous a interdit de s'en approcher, il nous a interdit de les franchir, ces limites. Ceci car les limites d'Allah Azza wa Jal représentent la séparation, le point de séparation entre le licite et l'illicite. Tu franchis cette limite, tu tombes dans le haram. Tu restes de l'autre côté, tu es dans le halal, dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala.
ونهاية الشيء تارة تدخل فيه فتكون منه وتارة لا تكون داخلة فيه فيكون لها حكم مقابله فبالاعتبار الأول نهى عن تعديها وبالاعتبار الثاني نهى عن قربانها.
الله عز وجل nous a ordonné, nous a interdit de s'en approcher dans un passage et dans un autre nous a interdit de les franchir. Il nous interdit de s'en approcher quand ce sont des choses qui en elles-mêmes sont interdites. Il nous interdit de les franchir quand il s'agit de choses qui sont permises, mais si l'on ne respecte pas les limites fixées, on tombe dans l'interdit. Pour cela, on voit l'interdiction de s'approcher des limites d'Allah, les interdits. On ne s'en approche pas, comme quand il dit subhanahu wa ta'ala, فَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا. Ne vous approchez pas de la fornication. Et dans l'autre verset, il nous interdit de dépasser les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala.
L'auteur rahimahullah dit, nous arrêterons ici pour aujourd'hui plutôt, inshallah ta'ala. Allahu ta'ala a'lam, sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.